Et on s'en va chez Roxane de la Sablonnière, qui est peut-être tout près de son sapin. Bonjour, Roxane.
Bonjour, Hélène.
Roxane, vous êtes professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être, directrice scientifique de l'axe 1 prévention communauté et bien-être du réseau québécois COVID pandémie. Eh oui, on en parle encore. Et aujourd'hui, vous avez eu la bonne idée de nous proposer un bilan de l'année 2023. Alors que l'année 2023 s'achève, quel bilan, Roxane, vous faites de la façon dont la pandémie nous aura changé comme individu et comme société?
Oui, Hélène, j'essaie de répondre à cette question. Donc, c'est un bilan que j'ai préparé avec trois de mes étudiants, Raphaël Grijalva-Lavallée, Samuel Mirino et Rosemary Guérard. On voulait prendre un petit pas de recul parce qu'avec la pandémie de 2020, 2021, 2022, on est vers la fin, ça nous a fait prendre conscience de beaucoup de trucs, comme le fait qu'on a une vulnérabilité qui est commune à tous et toutes. Et le fait aussi que les grands bouleversements sociaux dramatiques, ça peut arriver ici aussi, au Québec, au Canada, dans un pays qui est plus stable. On a été plongé dans une urgence d'agir pour éviter les décès, puis aussi de sortir de cet état de crise, parce qu'on se rappelle, hein, tout était fermé. Donc, sur le plan personnel, les gens ont adhéré aux mesures sanitaires, ils ont fait des sacrifices énormes, comme de devoir se distancier de leurs proches dans un moment de crise où ils auraient plutôt eu besoin de s'en rapprocher. Sur le plan collectif, il y a eu des dizaines et des dizaines d'organismes communautaires, par exemple, qui au quotidien ont œuvré avec créativité pour desservir plusieurs populations différentes, malgré tous les défis là, que la pandémie nous offrait. Sur le plan de la recherche, les chercheurs se sont mobilisés, les organismes subventionnaires ont investi beaucoup de temps, des ressources pour comprendre les phénomènes comme le bien-être, l'adhésion aux mesures sanitaires, la façon dont certains groupes aussi ont subi des désavantages importants, plus d'effets négatifs. On pense aux jeunes, aux personnes âgées, aux gens plus vulnérables, les travailleurs précaires, les personnes en situation d'itinérance ou de grande pauvreté. Puis aussi, finalement, sur le plan politique, il y a eu des lois qui ont été mises en place rapidement, des politiques pour nous réorganiser certaines structures sociales fondamentales au fonctionnement de la société, comme les hôpitaux, les écoles, les milieux de travail. Donc, tout ça, dans les dernières années, ça le fait en sorte qu'on a été projeté dans ce qu'on peut qualifier d'un état d'esprit d'urgence d'agir.
C'est vrai. Roxane, et l'année 2023 a-t-elle été différente selon vous?
Mais je pense que oui, parce qu'on commence tranquillement à prendre un pas de recul de la pandémie. On constate aussi que certaines problématiques sociales ne sont pas disparues avec la fin de la pandémie, même que certaines se sont amplifiées et qu'on doit, comme société, de continuer à nous en occuper.
Oui. Quels sont vos constats?
Mes constats, j'en ai trois. Le premier, c'est qu'une montée de la colère et de la mobilisation collective. Donc, on parle beaucoup de l'écart entre les riches et les pauvres, de l'inflation, on parle de pénurie de logement, d'une demande pour les banques alimentaires qui explosent. Les gens, ils se comparent. Ils se comparent aux autres, par exemple. Donc, on entend beaucoup parler du 30% d'augmentation salariale des députés par rapport à ce que les infirmières ou les enseignantes peuvent avoir. On se compare dans le temps aussi. Donc, avant, c'était plus facile d'économiser, par exemple, pour des vacances, alors que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à payer leur épicerie à chaque semaine. Donc, c'est une frustration qui amène une colère qui pousse les gens à revendiquer. C'est une revendication qui devient collective, qui peut aussi créer un sentiment d'appartenance puis un effet de groupe identitaire qui est quand même assez important. Mon deuxième constat, c'est qu'une menace à la démocratie aussi qu'on doit tenir compte, qu'on doit considérer pour les prochaines années. Il y a une polarisation entre certains groupes d'individus dans notre société puis partout à travers la planète. On parle de fausses nouvelles, de faits alternatifs, comme si c'était normal, normalisé, acceptable. Il y a eu beaucoup de mises à pied dans les médias traditionnels aussi. qui suscite beaucoup de questionnements pour la suite des choses. On gère de plus en plus la politique, puis ici au Québec, là, mais partout ailleurs, avec des lois spéciales ou des lois par bâillon. Il y a eu des blocages à l'accès aux nouvelles sur les grandes plateformes internationales comme Facebook, puis un recul de la gauche dans le monde, une progression de la droite radicale. Tout ça a des conséquences sur une augmentation du racisme, des actes de violence, de la discrimination, puis le recul de certains droits qui étaient acquis dans certains endroits, comme l'avortement, puis pour les communautés, par exemple, LGBTQ+. Puis finalement, mon troisième point, je note une accélération des changements puis du rythme de vie. Je ne sais pas si vous l'observez, Hélène, dans votre travail aussi.
Tout va vite. Et de plus en plus vite.
Trop vite et de plus en plus vite. Puis ça, c'est un constat que beaucoup de chercheurs observent. Par exemple, il y a eu un rapport de l'ONU qui dit que les situations de crise vont augmenter de 40 % d'ici 2030. Donc, il y a vraiment une accélération. Sur le plan du travail ou bien des études, on note une constante préoccupation d'optimiser tout ce qu'on fait, comme si chaque minute comptait. Il y a de moins en moins de moments informels avec des collègues, par exemple. Le télétravail offre beaucoup d'avantages, mais aussi certains désavantages. On note aussi beaucoup de professionnels qui sont à bout de souffle en ce moment.
Oui.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Hélène?
Non, mais j'allais dire, il y a de moins en moins de patience.
Oui, c'est vrai, ça vient avec ça. On se sent essoufflé, puis on a comme moins le temps de juste se poser, puis justement d'être plus patient avec les gens qui nous entourent et avec nos patrons ou les collègues autour de nous. Puis si on peut peut-être aussi l'observer, c'est plus une observation personnelle, il faudrait voir s'il y a des écrits scientifiques là-dessus, mais sur le plan personnel, on ne veut pas vraiment perdre de temps non plus, on est constamment sur nos cellulaires en train de s'occuper de faire quelque chose, comme si d'arrêter quelques minutes ou de juste rien faire était un échec dans notre journée. Donc on observe aussi que les parents sont plus fatigués, par exemple, donc ça peut poser des défis importants.
C'est drôle quand même, Roxane. On ne veut pas perdre de temps, mais on en perd beaucoup sur les réseaux sociaux quand on voyage, quand on navigue à travers nos cellulaires ou notre tablette.
Alors, Hélène, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans une des chroniques, j'avais parlé justement des effets néfastes de ces réseaux sociaux, par exemple, sur la solitude. Donc, plus on les utilise, plus on se sent seul aussi.
Oui.
Donc, ça a vraiment un effet pervers. Puis c'est un peu contre-intuitif parce qu'on pense que ça va nous aider, puis finalement, ça fait l'effet contraire.
Alors, en vous écoutant, on est plus dans le désespoir que dans l'espoir, mais comment, Roxane, garder espoir et que faire pour se sentir bien malgré tout?
Bien, à la dernière chronique, j'ai cité puis paraphrasé Zacharie Richard. Pour moi, c'est vraiment ma citation de l'année. Donc, c'est « L'espoir n'est pas un choix, mais un devoir ». Ça m'inspire beaucoup parce que ça nous met dans l'action et non dans l'attente ou dans la passivité. Mais être dans l'action, ça ne veut pas dire de construire carrément être dans un état d'esprit d'urgence d'agir que je vous parlais là, du début de la pandémie. On voulait toujours faire quelque chose, agir, aider, éviter les décès. Mais tu sais, ça veut dire de se mobiliser, mais des fois, ça veut dire d'arrêter, de cultiver peut-être ce que j'appelle la lenteur au quotidien. Puis j'en fais une résolution là pour cette année, puis j'espère qu'on aura cette conscience peut-être collective pour prendre le temps de faire les choses. Donc, la lenteur au quotidien, la cultiver, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire réfléchir et prendre le temps de penser. Par exemple, si on lit les nouvelles, c'est peut-être de dans les runes, puis de prendre le temps d'y réfléchir après, au lieu de lire de nouvelles en nouvelles. Si on publie un article scientifique, ben peut-être que c'est de vraiment prendre le temps de bien le faire, de réfléchir, de développer des modèles, développer des idées, au lieu de passer de publication en publication. Donc souvent, ça prend du temps. Il faut accepter aussi qu'on va peut-être être moins productif, si on peut dire, entre guillemets, pour un certain temps, mais à long terme, ça va être très payant. Prendre le temps en famille, avec les amis, avec les collègues, pas oublier que les relations sociales font partie de nous comme humains. On a besoin des autres. Si on est seul et qu'on se sent seul, cela a des répercussions vraiment importantes sur notre santé. Autant que l'obésité, le tabagisme. Donc, il faut vraiment considérer ça aussi, selon moi. Sur le plan politique, prendre le temps d'intégrer les avancées scientifiques dans les processus décisionnels, prendre le temps de s'assurer aussi que la participation citoyenne et communautaire est incluse dans les démarches puis les politiques qu'on souhaite développer. Puis concrètement, pour moi, dans le quotidien, ça veut aussi dire, puis vous l'avez dit, Hélène, là, laisser de côté les appareils électroniques, la lecture des courriels, des textos, prendre le temps avec les collègues, avec mes étudiants et étudiantes, peut-être encore plus sur le terrain avec les gens.
Oui, quel beau conseil.
Oui, puis en terminant, un petit mot de la fin, je souhaite vraiment douceur et amour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Puis je vous remercie sincèrement de m'accorder ce temps mensuel avec vous. Ça me permet à chaque fois de prendre un peu de recul, m'aider à réfléchir.
Vous aussi, Roxane, vous nous aidez à réfléchir.
Bien, merci. Puis je vous souhaite vraiment des joyeuses fêtes et une merveilleuse année 2024.
Bien, pareillement, à vous aussi, à vos proches, et merci beaucoup pour votre implication qui est vraiment précieuse pour au quotidien pour Canal M, et les auditeurs et auditrices apprécient beaucoup. Et comme cadeau, c'est en fait votre cadeau, une chanson qui joue beaucoup dans la maison de Roxane de la Sablonnière. Il s'agit d'une chanson de Cœur de pirate. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots?
Oui, mais en fait, c'est vraiment la chanson préférée de ma fille. Je pense qu'on l'écoute. On est souvent en voiture. On va au chalet, donc aller-retour, c'est assez long. Donc, on peut l'écouter à peu près 3 fois par voyage de voiture.
Ah,
c'est
oui.
Last Christmas, oui. Puis ma fille la connaît par cœur. Moi, je la connais par cœur, alors que je suis incapable de retenir une chanson par cœur normalement. Donc, ça vous dit beaucoup sur le nombre de fois que je l'ai écoutée.
Oui, complètement.
J'espère que tout le monde pourra l'apprécier.
Mais on va la découvrir ou la redécouvrir. Est-ce que votre fille est à l'écoute en ce moment?
Non, elle est à l'école. Je crois qu'ils sont dans une sortie à la piscine. Ça va mal pour écouter.
Elle s'appelle comment?
Blanche.
Alors, Blanche, comme Blanche-Neige qu'on n'a pas de ces temps-ci, mais on va penser à elle et à vous, et on l'offre donc tout de suite, cette chanson « Last Christmas, cœur de pirate ». Au plaisir de vous retrouver en 2024, Roxane.
Merci, Hélène. Au revoir.
Au revoir.